André Gide, retour de l'URSS. À la mémoire de Eugène Dabi, je dédie ces pages, reflet de ce que j'ai vécu et pensé près de lui, avec lui. L'hymne numérique à Déméter raconte que la grande déesse, dans sa course errante à la recherche de sa fille, vint à la cour de Kéléos. Là, nul ne reconnaissait sous les traits empruntés d'une niania la déesse. La garde d'un enfant dernier-né lui fut confiée par la reine Métanère, le petit Démophoon, qui devint plus tard Triptolème, l'initiateur des travaux des champs. Toute porte close, le soir, et tandis que la maison dormait, Déméter prenait Démophoon, l'enlevait de son berceau douillet, et, avec une apparente cruauté, mais en réalité guidée par un immense amour et désireuse d'amener jusqu'à la divinité l'enfant, l'étendait nu sur un ardent lit de braise. J'imagine la grande Déméter penchée comme sur l'humanité future, sur ce nourrisson radieux. Il supporte l'ardeur du charbon, et cette épreuve le fortifie. En lui, je ne sais quoi de surhumain se prépare, de robuste et d'inespérément glorieux. Ah, que ne put Déméter poursuivre jusqu'au bout sa tentative hardie et mener à bien son défi. Mais Métaner inquiète, raconte la légende, fit irruption dans la chambre de l'expérience, faussement guidée par une maternelle crainte, et repoussa la déesse et tout le surhumain qui se forgeait, écarta les braises, et pour sauver l'enfant, perdit le dieu. Avant-propos. J'ai déclaré il y a 3 ans mon admiration pour l'URSS et mon amour. Là-bas, une expérience sans précédent était tentée, qui nous gonflait le cœur d'espérance et d'où nous attendions un immense progrès, un élan capable d'entraîner l'humanité tout entière. Pour assister à ce renouveau, certes, il vaut la peine de vivre, pensais-je, et de donner sa vie pour y aider. Dans nos cœurs et dans nos esprits, nous attachons résolument au glorieux destin de l'URSS l'avenir même de la culture. Nous l'avons maintes fois répété. Nous voudrions pouvoir le dire encore. Déjà, avant d'y aller voir, de récentes décisions qui semblaient dénoter un changement d'orientation ne laissaient pas de nous inquiéter. J'écrivais alors, octobre 1935. C'est aussi, c'est beaucoup la bêtise et la malhonnêteté des attaques contre l'URSS qui font qu'aujourd'hui nous mettons quelque obstination à la défendre. Eux, les aboyeurs, vont commencer à l'approuver lorsque précisément nous cesserons de le faire. Car ce qu'ils approuveront, ce seront ces compromissions, ces transigences, et qui feront dire aux autres, « Vous voyez bien !» Mais par où elle s'écartera du but que d'abord elle poursuivait. Puisse notre regard, en restant fixé sur ce but, ne point être amené par la même à se détourner de l'URSS. Pourtant, jusqu'à présent informé, m'entêtant dans la confiance et préférant douter de mon propre jugement, 4 jours après mon arrivée à Moscou, je déclarais encore dans mon discours sur la place Rouge, à l'occasion des funérailles de Gorki, le sort de la culture est lié dans nos esprits au destin même de l'URSS, nous la défendrons. J'ai toujours professé que le désir de demeurer constant avec soi-même comportait trop souvent un risque d'insincérité, et j'estime que s'il importe d'être sincère, c'est bien lorsque la foi d'un grand nombre, avec la nôtre propre, est engagée. Si je me suis trompé d'abord, le mieux est de reconnaître au plus tôt mon erreur, car je suis responsable ici de ceux que cette erreur entraîne. Il n'y a pas en ce cas amour-propre qui tienne, et du reste, j'en ai fort peu. Il y a des choses plus importantes à mes yeux que moi-même, plus importantes que l'URSS, c'est l'humanité, c'est son destin, c'est sa culture. Mais m'étais-je trompé tout d'abord? Ceux qui ont suivi l'évolution de l'URSS depuis à peine un peu plus d'un an diront si c'est moi qui ai changé ou si ce n'est pas l'URSS. Et par l'URSS, j'entends celui qui la dirige. D'autres plus compétents que moi diront si ce changement d'orientation n'est peut-être qu'apparent et si ce qui nous apparaît comme une dérogation n'est pas une conséquence fatale de certaines dispositions antérieures. L'URSS est en construction. Il importe de se le redire sans cesse. Et de là l'exceptionnel intérêt d'un séjour sur cette immense terre en Gésine, il semble qu'on y assiste à la parturition du futur. Il y a là-bas du bon et du mauvais. Je devrais dire de l'excellent et du pire. L'excellent fut obtenu au prix, souvent, d'un immense effort. L'effort n'a pas toujours et partout obtenu ce qu'il prétendait obtenir. Parfois, l'on peut penser, pas encore. Parfois, le pire accompagne et double le meilleur. On dirait presque qu'il en est la conséquence. Et l'on passe du plus lumineux au plus sombre avec une brusquerie déconcertante. Il arrive souvent que le voyageur, selon des convictions préétablies, ne soit sensible qu'à l'un ou qu'à l'autre. Il arrive trop souvent que les amis de l'URSS se refusent à voir le mauvais, ou du moins à le reconnaître, de sorte que trop souvent, la vérité sur l'URSS est dite avec haine et le mensonge avec amour. Or, mon esprit est ainsi fait que son plus de ces vérités s'adresse à ceux que je voudrais pouvoir approuver toujours. C'est témoigner mal son amour que le borner à la louange, et je pense rendre plus grand service à l'URSS, même, et à la cause que pour nous elle représente, en parlant sans feinte et sans ménagement. C'est en raison même de mon admiration pour l'URSS, et pour les prodiges accomplis par elle déjà, que vont s'élever mes critiques, en raison aussi de ce que nous attendons encore d'elle, en raison surtout de ce qu'elle nous permettait d'espérer. Qui dira ce que l'URSS a été pour nous? Plus qu'une patrie d'élection, un exemple, un guide. Ce que nous rêvions, que nous osions à peine espérer, mais à quoi tendaient nos volontés, nos forces, avait eu lieu là-bas. Il était donc une terre où l'utopie était en passe de devenir réalité. D'immenses accomplissements déjà nous emplissaient le cœur d'exigences. Le plus difficile était fait déjà, semblait-il, et nous nous aventurions joyeusement dans cette sorte d'engagement pris avec elle au nom de tous les peuples souffrants. Jusqu'à quel point dans une faillite, nous sentirions-nous de même engagés? Mais la seule idée d'une faillite est inadmissible. Si certaines promesses tacites n'étaient pas tenues, que fallait-il incriminer? En fallait-il tenir pour responsables les premières directives? Ou plutôt les écarts même, les infractions, les accommodements si motivés qu'ils fussent? Je livre ici mes réflexions personnelles sur ce que l'URSS prend plaisir et légitime orgueil à montrer, et sur ce que, à côté de cela, j'ai pu voir. Les réalisations de l'URSS sont, le plus souvent, admirables. Dans des contrées entières, elles présentent l'aspect déjà riant du bonheur. Ceux qui m'approuvaient de chercher au Congo, quittant l'auto des gouverneurs, à entrer avec tous et n'importe qui en contact direct pour m'instruire, me reprocheront-ils d'avoir apporté en URSS un semblable souci et de ne me laisser point éblouir? Je ne me dissimule pas l'apparent avantage que les partis ennemis, ceux pour qui l'amour de l'ordre se confond avec le goût du tyran, vont prétendre tirer de mon livre. Et voici qui me retenait de le publier, de l'écrire même, si ma conviction ne restait intacte, inébranlée, que d'une part l'URSS finira bien par triompher des graves erreurs que je signale, d'autre part, et ceci est plus important, que les erreurs particulières d'un pays ne peuvent suffire à compromettre la vérité d'une cause internationale, universelle. Le mensonge, fût-ce celui du silence, peut paraître opportun, et opportune la persévérance dans le mensonge, mais il fait à l'ennemi trop beau jeu, et la vérité, fût-elle douloureuse, ne peut blesser que pour guérir. Chapitre 1. En contact direct avec un peuple de travailleurs, sur les chantiers, dans les usines ou dans les maisons de repos, dans les jardins, les parcs de culture, j'ai pu goûter des instants de joie profonde. J'ai senti parmi ces camarades nouveaux une fraternité subite s'établir, mon cœur se dilater, s'épanouir. C'est aussi pourquoi les photographies de moi que l'on a prises là-bas me montrent plus souriant, plus riant même, que je ne puis l'être souvent en France. Et que de fois là-bas les larmes me sont venues aux yeux, par excès de joie, larmes de tendresse et d'amour. Par exemple, à cette maison de repos des ouvriers mineurs de Donbass aux environs immédiats de Sotchi. Non, non, il n'y avait là rien de convenu, d'apprêté. J'étais arrivée brusquement, un soir, sans être annoncée, mais aussitôt j'avais senti près d'eux la confiance. Et cette visite inopinée dans ce campement d'enfants, près de Borjom, tout modeste, humble presque, mais où les enfants rayonnant de bonheur, de santé, semblaient vouloir m'offrir leur joie. Que raconter ? Les mots sont impuissants à se saisir d'une émotion si profonde et si simple. Mais pourquoi parler de ceci plutôt que de tant d'autres ? Poète de Géorgie, intellectuel, étudiant, ouvrier surtout, je me suis épris pour nombre d'entre eux d'une affection vive, et sans cesse je déplorais de ne connaître point leur langue. Mais déjà se lisait tant d'éloquence affectueuse dans les sourires, dans les regards, que je doutais alors si des paroles y eussent pu beaucoup ajouter. Il faut dire que j'étais présentée partout là-bas, comme un ami, ce qui exprimait encore les regards de tous, c'est une sorte de reconnaissance. Je voudrais la mériter plus encore, et cela aussi me pousse à parler. Ce que l'on vous montre le plus volontiers, ce sont les belles réussites. Il va sans dire, et cela est tout naturel. Mais il nous est arrivé maintes fois d'entrer à l'improviste dans des écoles de village, des jardins d'enfants, des clubs que l'on ne songeait point à nous montrer, et qui sans doute ne se distinguaient en rien de beaucoup d'autres. Et ce sont ceux que j'ai le plus admirés, précisément parce que rien n'y était préparé pour la montre. Les enfants, dans tous les campements de pionniers que j'ai vus, sont beaux, bien nourris, 5 repas par jour, bien soignés, choyés même, joyeux. Leur regard est clair, constant, leurs rires sont sans malignité, sans malice. On pourrait, en tant qu'étranger, leur paraître un peu ridicule. Pas un instant je n'ai surpris chez aucun d'eux la moindre trace de moquerie. Cette même expression de bonheur épanoui, nous la retrouverons souvent chez les aînés, également beaux, vigoureux. Les parcs de culture où ils s'assemblent au soir, la journée de travail achevée, sont d'incontestables réussites, entre tous, celui de Moscou. J'y suis retournée souvent. C'est un endroit où l'on s'amuse, comparable à un Luna Park qui serait immense. Aussitôt la porte franchie, on se sent tout dépaysé. Dans cette foule de jeunes gens, hommes et femmes, partout le sérieux, la décence, pas le moindre soupçon de rigolade bête ou vulgaire, de goudriole, de grivoiserie, ni même de flirt. On respire partout une sorte de ferveur joyeuse. Ici, des jeux sont organisés, là, des danses. D'ordinaire, un animateur ou une animatrice y préside, et les règles, et tout se passe avec un ordre parfait. D'immenses rondes se forment où chacun pourrait prendre part, mais les spectateurs sont toujours beaucoup plus nombreux que les danseurs. Puis ce sont des danses et des chants populaires, soutenus et accompagnés le plus souvent par un simple accordéon. Ici, dans cet espace enclos et pourtant libre d'accès, des amateurs s'exercent à diverses acrobaties. Un entraîneur surveille les sauts périlleux, conseille et guide, plus loin des appareils de gymnastique, des agrès. On attend patiemment son tour, on s'entraîne. Un grand espace est réservé au terrain de volley-ball, et je ne me lasse pas de contempler la robustesse, la grâce et la beauté des joueurs. Plus loin, ce sont les jeux tranquilles, échecs, dames, et quantité de menus jeux d'adresse ou de patience, dont certains que je ne connaissais pas, extrêmement ingénieux, comme aussi quantité de jeux exerçant la force, la souplesse ou l'agilité, que je n'avais vu nulle part, et que je ne puis chercher à décrire, mais dont quelques-uns auraient certainement grand succès chez nous. De quoi vous occuper pendant des heures. Il y en a pour les adultes, d'autres pour les enfants. Les tout-petits ont leur domaine à part, où ils trouvent de petites maisons, de petits trains, de petits bateaux, de petites automobiles, et quantité de menus instruments à leur taille. Dans une grande allée, et faisant suite aux jeux tranquilles, qui toujours ont tant d'amateurs qu'il faut parfois attendre longtemps pour trouver à son tour une table libre, sur des panneaux de bois, des tableaux proposent rébus, énigmes et devinettes. Tout cela, je le répète, sans la moindre vulgarité, et toute cette foule immense, d'une tenue parfaite, respire l'honnêteté, la dignité, la décence, sans contrainte aucune d'ailleurs et tout naturellement. Le public, en plus des enfants, est presque uniquement composé d'ouvriers qui viennent là s'entraîner au sport, se reposer, s'amuser ou s'instruire, car il y a aussi des salles de lecture, de conférences, des cinémas, des bibliothèques, etc. Sur la Moscova, des piscines. Et de ci, de là, dans cet immense parc, de minuscules estrades où pérore un professeur improvisé. Ce sont des leçons de choses, d'histoire ou de géographie avec tableaux à l'appui, ou même de médecine pratique, de physiologie, avec grand renfort de planches anatomiques, etc. On écoute avec un grand sérieux. Je l'ai dit, je n'ai surpris nulle part le moindre effet de moquerie. Mais voici mieux. Un petit théâtre en plein air. Dans la salle ouverte, quelques 500 auditeurs, entassés, pas une place vide, écoutent, dans un silence religieux, un acteur réciter du Pushkin, un chant d'Eugène Onéguine. Dans un coin du parc, près de l'entrée, le quartier des parachutistes. C'est un sport fort goûté là-bas. Toutes les 2 minutes, un des 3 parachutes, détaché du haut d'une tour de 40 mètres, dépose un peu brutalement sur le sol un nouvel amateur. Allons, qui s'y risque? On s'empresse, on attend son tour, on fait la queue. Et je ne parle pas du grand théâtre de verdure, où pour certains spectacles, ça semble près de 20 000 spectateurs. Le parc de culture de Moscou est le plus vaste et le mieux fourni d'attractions diverses. Celui de Leningrad, le plus beau. Mais chaque ville en URSS, à présent, possède son parc de culture, en plus de ses jardins d'enfants. J'ai également visité, il va sans dire, plusieurs usines. Je sais, et me répète, que de leur bon fonctionnement dépend l'aisance générale et la joie. Mais je n'en pourrais parler avec compétence. D'autres s'en sont chargés, je m'en rapporte à leur louange. Les questions psychologiques seules sont de mon ressort. C'est d'elles, surtout et presque uniquement, que je veux ici m'occuper. Si j'aborde de biais les questions sociales, c'est encore au point de vue psychologique que je me placerai. L'âge venant, je me sens moins de curiosité pour les paysages, beaucoup moins, et si beaux qu'ils soient, mais de plus en plus pour les hommes. En URSS, le peuple est admirable, celui de Géorgie, de Kakhétie, d'Abkhazie, d'Ukraine, je ne parle que de ce que j'ai vu, et plus encore à mon goût celui de Leningrad et de la Crimée. J'ai assisté aux fêtes de la jeunesse de Moscou, sur la place Rouge. Les bâtiments qui font face au Kremlin dissimulaient leur laideur sous un masque de banderoles et de verdure. Tout était splendide, et même, je me hâte de le dire ici car je ne pourrais le dire toujours, d'un goût parfait. Venue du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, une jeunesse admirable paradait. Le défilé dura des heures. Je n'imaginais pas un spectacle aussi magnifique. Évidemment, ces êtres parfaits avaient été entraînés, préparés et choisis entre tous. Mais comment n'admirer point un pays et un régime capables de les produire? J'avais vu la place Rouge quelques jours auparavant, lors des funérailles de Gorki. J'avais vu ce même peuple, le même peuple et pourtant tout différent, et ressemblant plutôt, j'imagine, au peuple russe du temps des tsars, défiler longuement, interminablement, dans la grande salle des colonnes, devant le catafalque. Cette fois, ce n'étaient pas les plus beaux, les plus forts, les plus joyeux représentants de ces peuples soviétiques, mais un tout venant douloureux, comprenant femmes, enfants surtout, vieillards parfois, presque tous mal vêtus et paraissant parfois très misérables. Un défilé silencieux, morne, recueilli, qui semblait venir du passé et qui, dans un ordre parfait, dura certainement beaucoup plus longtemps que l'autre, que le défilé glorieux. Je restais moi-même très longtemps à le contempler. Qu'était Gorki pour tous ces gens? Je ne sais trop. Un maître? Un camarade? Un frère? C'était en tout cas quelqu'un de mort. Et surtout les visages, même ceux des plus jeunes enfants, se lisaient une sorte de stupeur attristée, mais aussi, mais surtout, une force de sympathie rayonnante. Il ne s'agissait plus ici de beauté physique, mais un très grand nombre de pauvres gens que je voyais passer offraient à mes regards quelque chose de plus admirable encore que la beauté, et combien d'entre eux j'eusse voulu presser sur mon cœur. Aussi bien nulle part autant qu'en URSS, le contact avec tous et n'importe qui ne s'établit plus aisément, immédiat, profond, chaleureux. Il se tisse aussitôt, parfois un regard y suffit, des liens de sympathie violente. Oui, je ne pense pas que nulle part autant qu'en URSS, l'on puisse éprouver aussi profondément et aussi fort le sentiment de l'humanité. En dépit des différences de langue, je ne m'étais jamais encore et nulle part senti aussi abondamment camarade et frère, et je donnerais les plus beaux paysages du monde pour cela. Des paysages, je parlerai pourtant, mais je raconterai d'abord notre premier contact avec une bande de Komsomol. C'était dans le train qui nous menait de Moscou à Orjonikidze, l'ancien Vladikaukase. Le trajet est long. Au nom de l'Union des écrivains soviétiques, Michel Koltsov avait mis à notre disposition un très confortable wagon spécial. Nous y étions inespérément bien installés tous les six. Jeff Last, Guillou, Herbart, Chiffrin, Dabi et moi, avec notre interprète compagne, la fidèle camarade Bola. En plus de nos compartiments à couchettes, nous disposions d'un salon où l'on nous servait nos repas. On ne peut mieux. Mais ce qui ne nous plaisait guère, c'était de ne pouvoir communiquer avec le reste du train. Au premier arrêt, nous étions descendus sur le quai pour nous convaincre qu'une compagnie particulièrement plaisante occupait le wagon voisin. C'était une bande de Komsomol en vacances, partie pour le Caucase avec l'espoir d'escalader le mont Kazbek. Nous obtînmes enfin que les portes de séparation fussent ouvertes, et sitôt après nous prîmes contact avec nos charmants voisins. J'avais emporté de Paris quantité de petits jeux d'adresse, très différents de ceux que l'on connaît en URSS. Ils me servent occasionnellement à entrer en relation avec ceux dont je ne comprends pas la langue. Ces petits jeux passèrent de main en main. Jeunes gens et jeunes filles s'y exercèrent. Et n'eurent de cesse qu'ils n'eurent triomphé de toutes les difficultés proposées. Un Komsomol ne se tient jamais pour battu, nous disait-il en riant. Leur wagon était fort étroit. Et il faisait particulièrement chaud ce jour-là. Tous entassés les uns contre les autres, on étouffait. C'était charmant. Je dois ajouter que pour nombre d'entre eux, je n'étais pas un inconnu. Certains avaient lu de mes livres, le plus souvent c'était Le Voyage au Congo. Et comme à la suite de mon discours sur la Place Rouge à l'occasion des funérailles de Gorki, tous les journaux avaient publié mon portrait, ils m'avaient aussitôt reconnu et se montraient extrêmement sensibles à l'attention que je leur portais. Mais pas plus que je ne l'étais moi-même au témoignage de leur sympathie. Bientôt une grande discussion s'engagea. Jeff Last, qui comprend fort bien le russe et le parle, nous expliqua que les petits jeux introduits par moi leur paraissaient charmants, mais qu'il se demandait s'il était bien séant qu'André Gide lui-même s'en amusa. Jeff Last dut targuer que ce petit divertissement servait à lui reposer les méninges, car un vrai comme Somol, toujours tendu vers le service, juge tout d'après son utilité. Oh, sans pédanterie du reste, et cette discussion même, coupée de rire, était un jeu. Mais, comme l'air respirable manquait un peu dans leur wagon, nous invitâmes une dizaine d'entre eux à passer dans le nôtre, où la soirée se prolongea dans des chants, et même des danses populaires que la dimension du salon permettait. Cette soirée restera pour mes compagnons et pour moi l'un des meilleurs souvenirs du voyage. Et nous doutions si dans quelque autre pays on peut connaître une aussi brusque et naturelle cordialité, si dans aucun autre pays la jeunesse est aussi charmante. J'ai dit que je m'intéressais moins aux paysages. J'aurais voulu raconter pourtant les admirables forêts du Caucase, celles à l'entrée de la Kakhétie, celles des environs de Batoum, celles surtout de Bakouriani au-dessus de Borjom. Je n'en connaissais pas, je n'en imagine pas de plus belles. Aucun bois taillis n'y cache le fruit des grands arbres, forêts coupées de clairières mystérieuses où le soir tombe avant la fin du jour, et l'on imagine le petit pousset s'y perdant. Nous avions traversé cette forêt merveilleuse en nous rendant à un lac de montagne, et l'on nous fit l'honneur de nous affirmer que jamais aucun étranger encore n'y était venu. Point n'était besoin de cela pour me le faire trouver admirable. Sur ces bords sans arbres, un étrange petit village, Tabatskouri, enseveli 9 mois de l'année sous la neige, et que j'aurais pris plaisir à décrire. Ah, que n'étais-je venu simplement en touriste, ou en naturaliste, ravi de découvrir là-bas quantité de plantes nouvelles, de reconnaître sur les hauts plateaux la scabieuse du Caucase de mon jardin. Mais ce n'est point là ce que je suis venu chercher en URSS. Ce qui m'y importe, c'est l'homme, les hommes, et ce qu'on en peut faire, et ce qu'on en a fait. La forêt qui m'y attire, affreusement touffue et où je me perds, c'est celle des questions sociales. En URSS, elle vous sollicite et vous presse et vous oppresse de toutes parts. Chapitre 2. De Leningrad, j'ai peu vu les quartiers nouveaux. Ce que j'admire en Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg. Je ne connais pas de ville plus belle, pas de plus harmonieuse fiançaille de la pierre, du métal et de l'eau. On la dirait rêvée par Pouchkine ou par Baudelaire. Parfois aussi elle rappelle les peintures de Quirico. Les monuments y sont de proportions parfaites, comme les thèmes dans une symphonie de Mozart. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. L'esprit s'y meut avec aisance et joie. Je ne suis guère en humeur de parler du prodigieux musée de l'Ermitage. Tout ce que j'en pourrais dire me paraîtrait insuffisant. Pourtant, je voudrais louer en passant le zèle intelligent qui, chaque fois qu'il se pouvait, groupe autour d'un tableau tout ce qui du même maître peut nous instruire, études, esquisses, croquis, ce qui explique la lente formation de l'œuvre. En revenant de Leningrad, la disgrâce de Moscou frappe plus encore. Même, elle exerce son action opprimante et déprimante sur l'esprit. Les bâtiments, à quelques rares exceptions près, sont laids, pas seulement les plus modernes, et ne tiennent aucun compte les uns des autres. Je sais bien que Moscou se transforme de mois en mois. C'est une ville en formation. Tout l'atteste, et l'on y respire partout le devenir. Mais je crains qu'on ne soit mal parti. On taille, on défonce, on sape, on supprime, on reconstruit, et tout cela comme au hasard. Et Moscou reste, malgré sa laideur, une ville attachante entre toutes. Elle vit puissamment. Cessons de regarder les maisons. Ce qui m'intéresse ici, c'est la foule. Durant les mois d'été, presque tout le monde est en blanc. Chacun ressemble à tous. Nulle part, autant que dans les rues de Moscou, n'est sensible le résultat du nivellement social. Une société sans classe, dont chaque membre paraît avoir les mêmes besoins. J'exagère un peu, mais à peine. Une extraordinaire uniformité règne dans les mises. Sans doute elle paraîtrait également dans les esprits, si seulement on pouvait les voir. Et c'est aussi ce qui permet à chacun d'être et de paraître joyeux. On a si longuement manqué de tout qu'on est content de peu de choses. Quand le voisin n'a pas d'avantage, on se contente de ce qu'on a. Ce n'est qu'après mûr examen qu'apparaissent les différences. À première vue, l'individu se fond ici dans la masse, et si peu particularisé qu'il semble qu'on devrait, pour parler des gens, user d'un partitif et dire non point « des hommes », mais « de l'homme ». Dans cette foule, je me plonge, je prends un bain d'humanité. Que font ces gens devant ce magasin? Ils font la queue, une queue qui s'étend jusqu'à la rue prochaine. Ils sont là de 200 à 300, très calmes, patients, qui attendent. Il est encore tôt, le magasin n'a pas ouvert ses portes. 3 quarts d'heure plus tard, je repasse, la même foule est encore là. Je m'étonne, que sert d'arriver à l'avance? Qui gagne-t-on? Comment ce qu'on y gagne? Les premiers sont les seuls servis. Et l'on m'explique que les journaux ont annoncé un grand arrivage de je ne sais quoi. Je crois que ce jour-là, c'était des coussins. Il y a peut-être 400 ou 500 objets pour lesquels se présenteront 800, 1000 ou 1500 amateurs. Bien avant le soir, il n'en restera plus un seul. Les besoins sont si grands et le public est si nombreux que la demande durant longtemps encore l'emportera sur l'offre et l'emportera de beaucoup. On ne parvient pas à suffire. Quelques heures plus tard, je pénètre dans le magasin. Il est énorme. Dedans, c'est une incroyable cohue. Les vendeurs, du reste, ne s'affolent pas, car autour d'eux, pas le moindre signe d'impatience. Chacun attend son tour, assis ou debout, parfois avec un enfant sur les bras, sans numéro d'ordre et pourtant sans aucun désordre. On passera là, s'il le faut, sa matinée, sa journée, dans un air qui, pour celui qui vient du dehors, paraît d'abord irrespirable, puis on s'y fait, comme on se fait à tout. J'allais écrire « on se résigne ». Mais le russe est bien mieux que résigner. Il semble prendre plaisir à attendre, et il vous fait attendre à plaisir. Fendant la foule ou portée par elle, j'ai visité du haut en bas, de long en large, le magasin. Les marchandises sont, à bien peu près, rebutantes. On pourrait croire même que, pour modérer les appétits, étoffes, objets, etc., se fassent inattrayants au possible, de sorte qu'on achèterait par grand besoin, mais non jamais par gourmandise. J'aurais voulu rapporter quelques souvenirs à des amis. Tout est affreux. Pourtant, depuis quelques mois, me dit-on, un grand effort a été tenté, un effort vers la qualité, et l'on parvient, en cherchant bien et en y consacrant le temps nécessaire, à découvrir de ci, de là, de récentes fournitures fort plaisantes et rassurantes pour l'avenir. Mais pour s'occuper de la qualité, il faut d'abord que la quantité suffise, et durant longtemps, elle ne suffisait pas. Elle y parvient enfin, mais à peine. Du reste, les peuples de l'URSS semblent s'y prendre de toutes les nouveautés proposées, même de celles qui paraissent laides à nos yeux d'occidentaux. L'intensification de la production permettra bientôt, je l'espère, la sélection, le choix, la persistance du meilleur et la progressive élimination des produits de qualité inférieure. Cet effort vers la qualité porte surtout sur la nourriture. Il reste encore dans ce domaine fort à faire. Mais lorsque nous déplorons la mauvaise qualité de certaines denrées, Jeff Last, qui en est à son 4e voyage en URSS et dont le précédent séjour là-bas remonte à 2 ans, s'émerveille au contraire des prodigieux progrès récemment accomplis. Les légumes et les fruits en particulier sont encore, sinon mauvais, du moins médiocres à quelques rares exceptions près. Ici comme partout, l'exquis cède à l'ordinaire, c'est-à-dire au plus abondant. Une prodigieuse quantité de melons, mais sans saveur. L'impertinent proverbe persan, que je n'ai entendu citer et ne veux citer qu'en anglais, « Women for duty, boys for pleasure, melons for delight », ici porte à faux. Le vin est souvent bon, je me souviens en particulier des crus exquis de Tsinandali en Kakheti, la bière passable. Certains poissons fumés à Leningrad sont excellents, mais ne supportent pas le transport. Tant que l'on n'avait pas le nécessaire, on ne pouvait s'occuper raisonnablement du superflu. Si l'on n'a pas assez plus en URSS pour la gourmandise, ou pas plus tôt, c'est que trop d'appétit n'était pas encore rassasié. Le goût du reste ne s'affine que si la comparaison est permise, et il n'y avait pas à choisir. Pas de « X habille mieux ». Force est ici de préférer ce que l'on vous offre, c'est à prendre ou à laisser. Du moment que l'État est à la fois fabricant, acheteur et vendeur, le progrès de la qualité reste en raison du progrès de la culture. Alors je pense, en dépit de mon anticapitalisme, à tous ceux de chez nous qui, du grand industriel au petit commerçant, se tourmentent et s'ingénient, qu'inventer qui flatterait le goût du public, avec quelle subtile astuce chacun d'eux cherche à découvrir, par quel raffinement il pourra supplanter un rival. De tout cela, l'État n'a cure, car l'État n'a pas de rival. La qualité? À quoi bon, s'il n'y a pas de concurrence, nous a-t-on dit. Et c'est ainsi que l'on explique trop aisément la mauvaise qualité de tout en URSS et l'absence de goût du public. Eut-il du goût, il ne pourrait le satisfaire. Non, ce n'est plus d'une rivalité mais bien d'une exigence à venir, développée progressivement par la culture, que dépend ici le progrès. En France, tout irait sans doute plus vite, car l'exigence existe déjà. Pourtant, ceci encore, chaque État soviétique avait son art populaire. Qu'est-il devenu? Une grande tendance égalitaire refusa durant longtemps d'en tenir compte, mais ces arts régionaux reviennent en faveur et maintenant on les protège, on les restaure, on semble comprendre leur irremplaçable valeur. N'appartiendrait-il pas à une direction intelligente de se ressaisir d'anciens modèles pour l'impression de tissu, par exemple, et de les imposer, de les offrir du moins au public? Rien de plus bêtement bourgeois, petit bourgeois, que les productions d'aujourd'hui. Les étalages aux devantures des magasins de Moscou sont consternants, tandis que les toiles d'autrefois, imprimées au pochoir, étaient très belles, et c'était de l'art populaire, mais c'était de l'artisanat. Je reviens au peuple de Moscou. Ce qui frappe d'abord, c'est son extraordinaire indolence. Paresse serait sans doute trop dur. Mais le stakhanovisme a été merveilleusement inventé pour secouer le nonchaloir, on avait le knout autrefois. Le stakhanovisme serait inutile dans un pays où tous les ouvriers travaillent. Mais là-bas, dès qu'on les abandonne à eux-mêmes, les gens, pour la plupart, se relâchent. Et c'est merveille que malgré cela, tout se fasse. Au prix de quel effort des dirigeants, c'est ce que l'on ne saurait trop dire. Pour bien se rendre compte de l'énormité de cet effort, il faut avoir pu d'abord apprécier le peu de rendement naturel du peuple russe. Dans une des usines que nous visitons, qui fonctionne à merveille, je n'y entends rien, j'admire de conscience les machines, mais m'extasie sans arrière-pensée devant le réfectoire, le club des ouvriers, leur logement, tout ce que l'on a fait pour leur bien-être, leur instruction, leur plaisir. On me présente un stakhanoviste, dont j'avais vu le portrait énorme affiché sur un mur. Il est parvenu, me dit-on, à faire en 5 heures le travail de 8 jours, à moins que ce ne soit en 8 heures le travail de 5 jours, je ne sais plus. Je me hasarde à demander si cela ne revient pas à dire que, d'abord, il mettait 8 jours à faire le travail de 5 heures. mais ma question est assez mal prise et l'on préfère ne pas y répondre. Je me suis laissé raconter qu'une équipe de mineurs français, voyageant en URSS et visitant une mine, a demandé par camaraderie à relayer une équipe de mineurs soviétiques et qu'aussitôt, sans autrement se fouler, sans s'en douter, ils ont fait du stakhanovisme. Et l'on en vient à se demander ce que, avec le tempérament français, le zèle, la conscience et l'éducation de nos travailleurs, le régime soviétique n'arriverait pas à donner. Il n'est que juste d'ajouter sur ce fond de grisaille, en plus des stakhanovistes, toute une jeunesse fervente, keen at work, le vin joyeux et propre à faire lever la patte. Cette inertie de la masse me paraît avoir été, être encore, une des plus importantes, des plus graves données du problème que Staline avait à résoudre. De là, les ouvriers de choc ou d'armic. De là, le stakhanovisme. Le rétablissement de l'inégalité des salaires y trouve également son explication. Nous visitons, aux environs de Soukhoum, un kolkhoz modèle. Il est vieux de 6 ans. Après avoir péniblement végété les premiers temps, c'est aujourd'hui l'un des plus prospères. On l'appelle le millionnaire. Tout y respire la félicité. Ce kolkhoz s'étend sur un très vaste espace. Le climat aidant, la végétation y est luxuriante. Chaque habitation, construite en bois, montée sur échasses qui l'écartent du sol, est pittoresque, charmante. Un assez grand jardin l'entoure, empli d'arbres fruitiers, de légumes, de fleurs. Ce kolkhoz a pu réaliser l'an dernier des bénéfices extraordinaires, lesquels ont permis d'importantes réserves, ont permis d'élever à 16,50 € le taux de la journée de travail. Comment ce chiffre est-il fixé? Exactement par le même calcul qui, si le kolkhoz était une entreprise agricole capitaliste, dicterait le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires. Car ceci reste acquis. Il n'y a plus en URSS l'exploitation d'un grand nombre pour le profit de quelques-uns. C'est énorme. Ici, nous n'avons plus d'actionnaires. Ce sont les ouvriers eux-mêmes, ceux du kolkhoz, il va sans dire, qui se partagent les bénéfices sans aucune redevance à l'État. Cela serait parfait s'il n'y avait pas d'autres kolkhoz, pauvres ceux-là, et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Car si j'ai bien compris, chaque kolkhoz a son autonomie, et il n'est point question d'entraide. Je me trompe peut-être. Je souhaite de m'être trompée. J'ai visité plusieurs des habitations de ce kolkhoz très prospère. Je voudrais exprimer la bizarre et attristante impression qui se dégage de chacun de ses intérieurs, celle d'une complète dépersonnalisation. Dans chacun d'eux, les mêmes vilains meubles, le même portrait de Staline, et absolument rien d'autre, pas le moindre objet, le moindre souvenir personnel. Chaque demeure est interchangeable, au point que les kolkhoziens, interchangeables eux-mêmes, semble-t-il, déménageraient de l'une à l'autre sans même s'en apercevoir. Le bonheur est ainsi plus facilement obtenu, certes. C'est aussi, me dira-t-on, que le kolkhozien prend tous ses plaisirs en commun. Sa chambre n'est plus qu'un gîte pour y dormir. Tout l'intérêt de sa vie a passé dans le club, dans le parc de culture, dans tous les lieux de réunion. Que peut-on souhaiter de mieux? Le bonheur de tous ne s'obtient qu'en désindividualisant chacun. Le bonheur de tous ne s'obtient qu'aux dépens de chacun. Pour être heureux, soyez conformes. Chapitre 3. En URSS, il est admis d'avance, et une fois pour toutes, que sur tout et n'importe quoi, il ne saurait y avoir plus d'une opinion. Du reste, les gens ont l'esprit ainsi façonné que ce conformisme leur devient facile, naturel, insensible, au point que je ne pense pas qu'il y entre de l'hypocrisie. Sont-ce vraiment ces gens-là qui ont fait la révolution? Non, ce sont ceux-là qui en profitent. Chaque matin, la Pravda leur enseigne ce qu'il sied de savoir, de penser, de croire, et il ne fait pas bon sortir de là. De sorte que, chaque fois que l'on converse avec un Russe, c'est comme si l'on conversait avec tous. Non point que chacun obéisse précisément à un mot d'ordre, mais tout est arrangé de manière qu'il ne puisse pas dissembler. Songez que ce façonnement de l'esprit commence dès la plus tendre enfance, de là d'extraordinaires acceptations dont parfois, étranger, tu t'étonnes, et certaines possibilités de bonheur qui te surprennent plus encore. Tu plains ceux-ci de faire la queue durant des heures, mais eux trouvent tout naturel d'attendre. Le pain, les légumes, les fruits te paraissent mauvais, mais il n'y en a point d'autres. Ces étoffes, ces objets que l'on te présente, tu les trouves laids. mais il n'y a pas le choix. Tout point de comparaison enlevé, sinon avec un passé peu regrettable, tu te contenteras joyeusement de ce qu'on t'offre. L'important ici, c'est de persuader aux gens qu'on est aussi heureux que, en attendant mieux, on peut l'être. De persuader aux gens qu'on est moins heureux que partout ailleurs. L'on y peut arriver qu'en empêchant soigneusement toute communication avec le dehors. J'entends le « par-delà les frontières ». Grâce à quoi, à condition de vie égale ou même sensiblement inférieure, l'ouvrier russe s'estime heureux, est plus heureux, beaucoup plus heureux que l'ouvrier de France. Leur bonheur est fait d'espérance, de confiance et d'ignorance. Il m'est extrêmement difficile d'apporter de l'ordre dans ces réflexions, tant les problèmes ici s'entrecroisent et se chevauchent. Je ne suis pas un technicien, et c'est par leur retentissement psychologique que les questions économiques m'intéressent. Je m'explique fort bien, psychologiquement, pourquoi il importe d'opérer en vase clos, de rendre opaques les frontières, jusqu'à nouvel ordre, et tant que les choses n'iront pas mieux, il importe au bonheur des habitants de l'URSS que ce bonheur reste à l'abri. Nous admirons en URSS un extraordinaire élan vers l'instruction, la culture. Mais cette instruction ne renseigne que sur ce qui peut amener l'esprit à se féliciter de l'état de choses présent et à penser « Oh, URSS, ave spes unica ». Cette culture est tout aiguillée dans le même sens, elle n'a rien de désintéressé, elle accumule et l'esprit critique, en dépit du marxisme, y fait à peu près complètement défaut. Je sais bien, on fait grand cas là-bas de ce qu'on appelle l'autocritique. Je l'admirais de loin, et pense qu'elle eût pu donner des résultats merveilleux si sérieusement et sincèrement appliquée. Mais j'évite dû comprendre que, en plus des dénonciations et des remontrances, la soupe du réfectoire est mal cuite ou la salle de lecture du club mal balayée, cette critique ne consiste qu'à demander si ceci ou cela est dans la ligne ou ne l'est pas. Ce n'est pas elle, la ligne, que l'on discute. Ce que l'on discute, c'est de savoir si telle œuvre, tel geste ou telle théorie est conforme à cette ligne sacrée. Et malheur à celui qui chercherait à pousser plus loin. Critique en deçà, tant qu'on voudra. La critique au-delà n'est pas permise. Il y a des exemples de cela dans l'histoire, et rien plus que cet état d'esprit ne met en péril la culture. Je m'en expliquerai plus loin. Le citoyen soviétique reste dans une extraordinaire ignorance de l'étranger. Bien plus, on l'a persuadé que tout à l'étranger, et dans tous les domaines, allait beaucoup moins bien qu'en URSS. Cette illusion est savamment entretenue, car il importe que chacun, même peu satisfait, se félicite du régime qui le préserve de pires maux. D'où certains complexes de supériorité, dont je donnerai quelques exemples. Chaque étudiant est tenu d'apprendre une langue étrangère. Le français est complètement délaissé. C'est l'anglais, c'est l'allemand surtout qu'ils sont censés connaître. Je m'étonne de les entendre le parler si mal. Un élève de seconde année de chez nous en sait davantage. De l'un d'entre eux que nous interrogeons, nous recevons cette explication en russe, et Jeff Last nous le traduit. Il y a quelques années encore, l'Allemagne et les États-Unis pouvaient sur quelques points nous instruire, mais à présent nous n'avons plus rien à apprendre des étrangers. Donc, à quoi bon parler leur langue? Du reste, s'ils s'inquiètent tout de même de ce qui se fait à l'étranger, ils se soucient bien davantage de ce que l'étranger pense d'eux. Ce qui leur importe, c'est de savoir si nous les admirons assez. Ce qu'ils craignent, c'est que nous soyons insuffisamment renseignés sur leurs mérites. Ce qu'ils souhaitent de nous, ce n'est point tant qu'on les renseigne, mais qu'on les complimente. Les petites filles charmantes qui se pressent autour de moi dans ce jardin d'enfants, où du reste tout est alloué comme tout ce qu'on fait ici pour la jeunesse, me harcèlent de questions. Ce qu'elles voudraient savoir, ce n'est pas si nous avons des jardins d'enfants en France, mais bien si nous savons en France qu'ils ont en URSS d'aussi beaux jardins d'enfants. Les questions que l'on vous pose sont souvent si ahurissantes que j'hésite à les rapporter. On va croire que je les invente. On sourit avec scepticisme lorsque je dis que Paris a lui aussi son métro. Avons-nous seulement des tramways, des omnibus? L'un demande, et ce ne sont plus des enfants mais bien des ouvriers instruits, si nous avons aussi des écoles en France. Un autre, un peu mieux renseigné, hausse les épaules. Des écoles, oui, les Français en ont, mais on y bat les enfants. Il tient ce renseignement de source sûre. Que tous les ouvriers chez nous soient très malheureux, il va sans dire puisque nous n'avons pas encore fait la révolution. Pour eux, Hors de l'URSS, c'est la nuit. À part quelques capitalistes éhontés, tout le reste du monde se débat dans les ténèbres. Des jeunes filles instruites et fort distinguées, au camp d'Artek, qui n'admet que les sujets hors ligne, s'étonnent beaucoup lorsque, parlant des films russes, je leur dis que Tchapaïev et Nous de Kronstad ont eu à Paris grand succès. On leur avait pourtant bien affirmé que tous les films russes étaient interdits en France. Et comme ceux qui leur ont dit cela, ce sont leurs maîtres, je vois bien que la parole que ces jeunes filles mettent en doute, c'est la mienne. Les Français sont tellement blagueurs. Dans une société d'officiers de marine, à bord d'un cuirassé que l'on vient de me faire admirer, complètement fait en URSS celui-là, je me risque à oser dire que je crains qu'on ne soit moins bien renseigné en URSS sur ce qui se fait en France qu'en France sur ce qui se fait en URSS. Un murmure nettement désapprobateur s'élève. La Pravda renseigne sur tout suffisamment. Et brusquement, quelqu'un, lyrique, se détachant du groupe, s'écrie. Pour raconter tout ce qui se fait en URSS de neuf et de beau et de grand, on ne trouverait pas assez de papier dans le monde. Dans ce même camp modèle d'Artek, paradis pour enfants modèles, petits prodiges, médaillés, diplômés, ce qui fait que je lui préfère de beaucoup d'autres camps de pionniers, plus modestes, moins aristocrates, un enfant de 13 ans qui, si j'ai bien compris, vient d'Allemagne, mais qui a déjà façonné l'Union, me guide à travers le parc dont il fait valoir les beautés. Il récite. « Voyez, ici, il n'y avait rien dernièrement encore. Et tout à coup, cet escalier. Et c'est partout ainsi en URSS. Hier, rien, demain, tout. Regardez ces ouvriers là-bas, comme ils travaillent. Et partout en URSS, des écoles et des camps semblables. Naturellement, pas tout à fait aussi beau, parce que ce camp d'Artek n'a pas son pareil au monde. Staline s'y intéresse tout particulièrement. Tous les enfants qui viennent ici sont remarquables. » Vous entendrez tout à l'heure un enfant de 13 ans qui sera le meilleur violoniste du monde. Son talent a déjà tellement été apprécié chez nous qu'on lui a fait cadeau d'un violon historique, d'un violon d'un fabricant de violons d'autrefois, très célèbre. Et ici, regardez cette muraille, dirait-on qu'elle a été construite en 10 jours? L'enthousiasme de cet enfant paraît si sincère que je me garde de lui faire remarquer que ce mur de soutènement, trop hâtivement dressé, déjà se fissure. Il ne consent à voir, ne peut voir, que ce qui flatte son orgueil et ajoute dans un transport. Les enfants même s'en étonnent. Ces propos d'enfant, propos dictés, appris peut-être, m'ont paru si topiques que je les ai transcrits le soir même et que je les rapporte ici tout au long. Je ne voudrais pourtant pas laisser croire que je n'ai pas remporté d'Artek d'autres souvenirs. Il est vrai, ce camp d'enfants est merveilleux. Dans un site admirable, fort ingénieusement aménagé, il s'étage en terrasse et s'achève à la mer. Tout ce que l'on a pu imaginer pour le bien-être des enfants, pour leur hygiène, leur entraînement sportif, leur amusement, leur plaisir, est groupé et ordonné sur ses paliers et le long de ses pentes. Tous les enfants respirent la santé, le bonheur. Ils s'étaient montrés fort déçus lorsque nous leur avons dit que nous ne pourrions rester jusqu'à la nuit. Ils avaient préparé le feu de camp traditionnel, orné les arbres du jardin d'en bas de banderoles en notre honneur. Les réjouissances diverses, chants et danses qui devaient avoir lieu le soir, je demandais que tout fût reporté avant 5 heures. La route du retour était longue. J'insistais pour rentrer à Sébastopol avant le soir. Eh bien, m'en prie, car c'est ce même soir que Jeanne Dabi, qui m'avait accompagnée là-bas, tomba malade. Rien n'annonçait cela pourtant. Et il put se réjouir pleinement du spectacle que nous offrirent ses enfants. De la danse surtout, de l'exquise petite Tadjikistan, qui s'appelle Tamar, je crois. Celle même que l'on voyait embrassée par Staline sur toutes les affiches énormes qui couvraient les murs de Moscou. Rien ne dira le charme de cette danse et la grâce de cet enfant. Un des plus exquis souvenirs de l'URSS, me disait Dabi, et je le pensais avec lui, ce fut sa dernière journée de bonheur. L'hôtel de Sotchi est des plus plaisants. Ses jardins sont fort beaux, sa plage est des plus agréables, mais aussitôt les baigneurs voudraient nous faire avouer que nous n'avons rien de comparable en France. Par décence, nous nous retenons de leur dire qu'en France, nous avons mieux, beaucoup mieux. Non, l'admirable ici, c'est que ce demi-luxe, ce confort, soit mis à l'usage du peuple, si tant est pourtant que ceux qui viennent habiter ici ne soient pas trop, de nouveau, des privilégiés. En général, sont favorisés les plus méritants, mais à condition toutefois qu'il soit conforme, bien dans la ligne, et ne bénéficie des avantages que ceux-ci. L'admirable, à Sotchi, c'est cette quantité de sanatoriums, de maisons de repos autour de la ville, tous merveilleusement installés. Et que tout cela soit construit pour les travailleurs, c'est parfait. Mais tout auprès, l'on souffre d'autant plus de voir les ouvriers employés à la construction du nouveau théâtre, si peu payés et parqués dans les campements sordides. L'admirable à Sotchi, c'est Otrovski. Si déjà je louangeais l'hôtel de Sotchi, que dirais-je de celui de Sinop, près de Soukhoum, bien supérieur et tel qu'il supporte la comparaison des meilleurs, des plus beaux, des plus confortables hôtels balnéaires étrangers. Son admirable jardin date de l'Ancien Régime, mais le bâtiment même de l'hôtel est tout récemment construit, très intelligemment aménagé, de l'aspect extérieur et intérieur le plus heureux. Chaque chambre a sa salle de bain, sa terrasse particulière, les ameublements sont d'un goût parfait, la cuisine y est excellente, une des meilleures que nous ayons goûtées en URSS. L'hôtel Sinop paraît un des lieux de ce monde où l'homme se trouve le plus près du bonheur. À côté de l'hôtel, un sovkhoz a été créé en vue d'approvisionner celui-ci. J'y admire une écurie modèle, une étable modèle, une porcherie modèle et surtout un gigantesque poulailler dernier cri. Chaque poule porte à la patte sa bague numérotée. Sa ponte est soigneusement enregistrée. Chacune a pour y pondre son petit box particulier où on l'enferme et d'où elle ne sort qu'après avoir pondu. Et je ne m'explique pas qu'avec tant de soin, les œufs que l'on nous sert à l'hôtel ne soient pas meilleurs. J'ajoute qu'on ne pénètre dans ces locaux qu'après avoir posé ses pieds sur un tapis imprégné de substances stérilisantes pour désinfecter ses souliers. Le bétail, lui, passe à côté. Tant pis. Si l'on traverse un ruisseau qui délimite le sovkhoz, un alignement de taudis. On y loge à quatre, dans une pièce de 2,50 m sur 2 m, louée à raison de 2 roubles par personne et par mois. Le repas, au restaurant du sovkhoz, coûte 2 roubles. Luxe que ne peuvent se permettre ceux dont le salaire n'est que de 75 roubles par mois. Ils doivent se contenter, en plus du pain, d'un poisson sec. Je ne proteste pas contre l'inégalité des salaires. J'accorde qu'elle était nécessaire. Mais il y a des moyens de remédier aux différences de conditions. Or, je crains que ces différences, au lieu de s'atténuer, n'aillent en s'accentuant. Je crains que ne se reforme bientôt une nouvelle sorte de bourgeoisie ouvrière satisfaite, et partant conservatrice parbleu, trop comparable à la petite bourgeoisie de chez nous. J'en vois partout des symptômes annonciateurs, et comme nous ne pouvons douter, hélas, que les instincts bourgeois, veulent, jouisseurs, insoucieux d'autrui, sommeillent au cœur de bien des hommes en dépit de toute révolution, car la réforme de l'homme ne peut se faire uniquement par le dehors, je m'inquiète beaucoup de voir, dans l'URSS d'aujourd'hui, ces instincts bourgeois indirectement flattés, encouragés par de récentes décisions qui reçoivent chez nous des approbations alarmantes. Avec la restauration de la famille, en tant que cellule sociale, de l'héritage et du legs, le goût du lucre, de la possession particulière, reprennent le pas sur le besoin de camaraderie, de partage et de vie commune. Non chez tous, sans doute, mais chez beaucoup. Et l'on voit se reformer des couches de société, sinon déjà des classes, une sorte d'aristocratie. Je ne parle pas ici de l'aristocratie du mérite et de la valeur personnelle, mais bien de celle du bien-pensé, du conformisme, et qui, dans la génération suivante, deviendra celle de l'argent. Mes craintes sont-elles exagérées? Je le souhaite. Du reste, l'URSS nous a montré qu'elle était capable de brusques volte-face. Mais je crains bien que pour couper court à cet embourgeoisement, qu'aujourd'hui les gouvernants approuvent et favorisent, un brusque ressaisissement me paraisse bientôt nécessaire, qui risque d'être aussi brutal que celui qui mit fin à la nette. Comment n'être pas choqué par le mépris, ou tout au moins l'indifférence de ceux qui sont et qui se sentent du bon côté, marquent à l'égard des inférieurs, des domestiques, des manœuvres, des hommes et des femmes de journée, et j'allais dire des pauvres. Il n'y a plus de classe en URSS, c'est entendu. Mais il y a des pauvres. Il y en a trop, beaucoup trop. J'espérais pourtant bien ne plus en voir, ou même plus exactement, c'est pour ne plus en voir que j'étais venue en URSS. Ajoutez que la philanthropie n'est plus de mise, ni plus la simple charité. L'État s'en charge, il se charge de tout, et l'on n'a plus besoin, c'est entendu, de secourir. De là certaines sécheresses dans les rapports, en dépit de toute camaraderie. Et naturellement, il ne s'agit pas ici des rapports entre égaux, mais à l'égard de ces inférieurs dont je parlais, le complexe de supériorité joue en plein. Cet état d'esprit petit bourgeois, qui, je le crains, tend à se développer là-bas, est à mes yeux profondément et foncièrement contre-révolutionnaire. Mais ce qu'on appelle contre-révolutionnaire en URSS aujourd'hui, ce n'est pas du tout cela, c'est même à peu près le contraire. L'esprit que l'on considère comme contre-révolutionnaire aujourd'hui, c'est ce même esprit révolutionnaire, ce ferment qui d'abord fit éclater les douves à demi pourries du vieux monde tsariste. On aimerait bien pouvoir penser qu'un débordant amour des hommes, ou tout au moins un impérieux besoin de justice, emplit les cœurs. Mais une fois la révolution accomplie, triomphante, stabilisée, il n'est plus question de cela, et de tels sentiments qui d'abord animaient les premiers révolutionnaires deviennent encombrants, gênants, comme ce qui a cessé de servir. Je les compare, ces sentiments, à ces étais grâce auxquels on élève une arche, mais qu'on enlève après que la clé de voûte est posée. Maintenant que la révolution a triomphé, maintenant qu'elle se stabilise et s'apprivoise, qu'elle pactise et certains diront « ça s'agit », ceux que ce ferment révolutionnaire anime encore et qui considère comme compromission toutes ces concessions successives, ceux-là gênent et sont honnis, supprimés. Alors, ne vaudrait-il pas mieux, plutôt que de jouer sur les mots, reconnaître que l'esprit révolutionnaire et même simplement l'esprit critique n'est plus de mise, qu'il n'en faut plus. Ce que l'on demande à présent, c'est l'acceptation, le conformisme. Ce que l'on veut et exige, c'est une approbation de tout ce qui se fait en URSS. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est que cette approbation ne soit pas résignée, mais sincère, mais enthousiaste même. Le plus étonnant, c'est qu'on y parvient. D'autre part, la moindre protestation, la moindre critique est passible des pires peines, et du reste, aussitôt étouffée. Et je doute qu'en aucun autre pays aujourd'hui, fût-ce dans l'Allemagne d'Hitler, l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif, terrorisé, plus vassalisé. Chapitre 4. Dans cette usine de raffinerie de pétrole, aux environs de Soukhoum, où tout nous paraît si remarquable, le réfectoire, les logements des ouvriers, leur club, quant à l'usine même je n'y entends rien et admire de confiance, nous nous approchons du journal mural affiché selon l'usage dans une salle de club. Nous n'avons pas le temps de lire tous les articles, mais à la rubrique « Secours rouge » où en principe se trouvent les renseignements étrangers, nous nous étonnons de ne voir aucune allusion à l'Espagne dont les nouvelles depuis quelques jours ne laissent pas de nous inquiéter. Nous ne cachons pas notre surprise, un peu attristée. Il s'ensuit une légère gêne. On nous remercie de la remarque, il en sera certainement tenu compte. Le même soir, banquet. Toasts nombreux selon l'usage, et quand on a bu à la santé de tous et de chacun des convives, Jeff Last se lève et, en russe, propose de vider un verre au triomphe du Front Rouge espagnol. On applaudit chaleureusement, encore qu'avec une certaine gêne, nous semble-t-il, et aussitôt, comme en réponse, « Toast à Staline ». À mon tour, je lève mon verre pour les prisonniers politiques d'Allemagne, de Yougoslavie, de Hongrie. On applaudit. Avec un enthousiasme franc cette fois, on trinque, on boit. Puis de nouveau, sitôt après, toast à Staline. C'est aussi que sur les victimes du fascisme, en Allemagne et ailleurs, l'on savait quelle attitude avoir. Pour ce qui est des troubles et de la lutte en Espagne, l'opinion générale et particulière attendait les directions de la Pravda, qui ne s'était pas encore prononcée. On n'osait pas se risquer avant de savoir ce qu'il fallait penser. Ce n'est que quelques jours plus tard, nous étions arrivés à Sébastopol, qu'une immense vague de sympathie, partie de la place rouge, vint déferler dans les journaux, et que partout des souscriptions volontaires pour le secours aux gouvernementaux s'organisèrent. Dans le bureau de cette usine, un grand tableau symbolique nous avait frappés. On y voyait, au centre, Staline en train de parler. Répartis à sa droite et à sa gauche, les membres du gouvernement applaudirent. l'effigie de Staline se rencontre partout. Son nom est sur toutes les bouches. Sa louange revient immanquablement dans tous les discours. Particulièrement en Géorgie, je n'ai pu entrer dans une chambre habitée, fût-ce la plus humble, la plus sordide, sans y remarquer un portrait de Staline, accroché au mur, à l'endroit sans doute où se trouvait autrefois l'icône. Adoration, amour ou crainte, je ne sais, toujours et partout, il est là. Sur la route du Tiflis à Batoum, nous traversons Gori, la petite ville où naquit Staline. J'ai pensé qu'il serait sans doute courtois de lui envoyer un message, en réponse à l'accueil de l'URSS où, partout où nous avons été acclamés, festoyés, choyés. Je ne trouverai jamais meilleure occasion. Je fais arrêter l'auto devant la poste et tends le texte d'une dépêche. Elle dit à peu près « En passant à Gori au cours de notre merveilleux voyage, j'éprouve le besoin cordial de vous adresser... » Mais ici, le traducteur s'arrête. Je ne puis point parler ainsi. Le « vous » ne suffit point, lorsque ce « vous », c'est Staline. Cela n'est point décent. Il y faut ajouter quelque chose. Et comme je manifeste certaines stupeurs, on se consulte. On me propose « vous, chef des travailleurs » ou « maître des peuples » ou je ne sais plus quoi. Je trouve cela absurde, proteste que Staline est au-dessus de ses flagorneries. Je me débat en vain. Rien à faire. On acceptera ma dépêche que si je consens au rajout. Et comme il s'agit d'une traduction que je ne suis pas à même de contrôler, je me soumets de guerre lasse, mais en déclinant toute responsabilité et songeant avec tristesse que tout cela contribue à mettre entre Staline et le peuple une effroyable, une infranchissable distance. Et comme déjà j'avais pu constater de semblables retouches et mises au point dans les traductions de diverses allocutions que j'avais été amenée à prononcer en URSS, je déclarais aussitôt que je ne reconnaîtrais comme mien aucun texte de moi paru en russe durant mon séjour, et que je le dirais. Voilà qui est fait. Oh, parbleu, je ne veux voir dans ces menus travestissements, le plus souvent involontaires, aucune malignité, bien plutôt le désir d'aider quelqu'un qui n'est pas au courant des usages, et qui certainement ne peut demander mieux que de s'y plier, d'y conformer ses expressions et sa pensée. Staline, dans l'établissement du premier et du second plan quinquennal, fait preuve d'une telle sagesse, d'une si intelligente souplesse dans les modifications successives, qu'il a cru devoir y apporter, que l'on en vient à se demander si plus de constance était possible. Si ce progressif détachement de la première ligne, cet écartement du léninisme n'était pas nécessaire, si plus d'entêtement n'exigeait pas du peuple un effort surhumain. De toute manière, il y a des boires. Si ce n'est pas Staline, alors c'est l'homme, l'être humain qui déçoit. Ce qu'on tentait, que l'on voulait, que l'on se croyait tout près d'obtenir après tant de luttes, tant de sang versé, tant de larmes, c'était donc au-dessus des forces humaines. Faut-il attendre encore, résigner ou reporter à plus loin ses espoirs? Voilà ce qu'en URSS on se demande avec angoisse. Et que cette question vous effleure, c'est déjà trop. Après tant de mois d'efforts, tant d'années, on était en droit de se demander, vont-ils enfin pouvoir relever un peu la tête? Les fronts n'ont jamais été plus courbés. Qu'il y ait divergence de l'idéal premier, voilà qui ne peut être mis en doute. Mais devrons-nous mettre en doute du même coup que ce que l'on voulait d'abord fut aussitôt possible? Y a-t-il faillite ou opportune et indiscutable accommodation à d'imprévues difficultés? Ce passage de la mystique à la politique entraîne-t-il fatalement une dégradation? Car il ne s'agit plus ici de théorie, on est dans le domaine pratique, il faut compter avec le menschliches, als menschliches, et compter avec l'ennemi. Quantité de résolutions de Staline sont prises, et ces derniers temps presque toutes, en fonction de l'Allemagne et dictées par la peur qu'on en a. Cette restauration progressive de la famille, de la propriété privée, de l'héritage, trouvent une valable explication. Il importe de donner aux citoyens soviétiques le sentiment qu'il a quelques biens personnels à défendre. Mais c'est ainsi que, progressivement, l'impulsion première s'engourdit, se perd, que le regard cesse de se diriger à l'avant. Et l'on me dira que cela est nécessaire, urgent, car une attaque de flanc risque de ruiner l'entreprise. Mais d'accommodement en accommodement, l'entreprise se compromet. Une autre crainte, celle du trotskisme, et de ce qu'on appelle aujourd'hui là-bas l'esprit de contre-révolution. Car certains se refusent à penser que cette transigeance fut nécessaire. Tous ces accommodements leur paraissent autant de défaites. Que la déviation des directives premières trouve des explications, des excuses, il se peut. Cette déviation seule importe à leurs yeux. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de soumission, le conformisme qu'on exige. Seront considérés comme trotskistes tous ceux qui ne se déclarent pas satisfaits, de sorte que l'on vient à se demander si Lénine lui-même reviendrait-il sur la Terre aujourd'hui. Que Staline ait toujours raison, cela revient à dire que Staline a raison de tout. Dictature de prolétariat, nous promettait-on. Nous sommes loin de ce compte. Oui, dictature, évidemment, mais celle d'un homme, non plus celle des prolétaires unis, des soviets. Il importe ne d'un point se leurrer, et forcé de reconnaître tout net, ce n'est point là ce qu'on voulait. Un pas de plus, et nous dirons même, c'est exactement ceci que l'on ne voulait pas. Supprimer l'opposition dans un État, ou même simplement l'empêcher de se prononcer, de se produire, c'est chose extrêmement grave. L'invitation au terrorisme. Si tous les citoyens d'un État pensaient de même, ce serait sans aucun doute plus commode pour les gouvernants. Mais devant cet appauvrissement, qui donc oserait encore parler de culture? Sans contrepoids, comment l'esprit ne verserait-il pas tout dans un sens? C'est, je pense, une grande sagesse d'écouter les partis adverses, de les soigner même au besoin, tout en les empêchant de nuire. Les combattre, mais non les supprimer. Supprimer l'opposition. Il est sans doute heureux que Staline y parvienne si mal. L'humanité n'est pas simple, il faut en prendre son parti, et toute tentative de simplification, d'unification, de réduction par le dehors sera toujours odieuse, ruineuse et sinistrement bouffonne. Car l'embêtement pour Attali, c'est que c'est toujours Eliassin, l'embêtant pour Hérode, c'est que c'est toujours la sainte famille qui échappe, écrivais-je en 1910. Chapitre 5. J'écrivais avant d'aller en URSS. Je crois que la valeur d'un écrivain est liée à la force révolutionnaire qui l'anime, ou plus exactement, car je ne suis pas si fou que de ne reconnaître de valeur artistique qu'aux écrivains de gauche, à sa force d'opposition. Cette force existe aussi bien chez Bossuet, Chateaubriand, ou de nos jours Claudel, que chez Molière, Voltaire, Hugo et tant d'autres. Dans notre forme de société, un grand écrivain, un grand artiste, est essentiellement anticonformiste. Il navigue à contre-courant. Cela a été vrai pour Dante, pour Cervantes, pour Ibsène, pour Gogol. Cela cesse d'être vrai, semble-t-il, pour Shakespeare et ses contemporains, dont John Addington Symonds dit excellemment « What made the playwrights of that epoch so great was that they, the authors, lived and wrote in fullest sympathy with the whole people. » Cela n'était sans doute pas vrai pour Sophocle, et certainement pas pour Homère, par qui la Grèce même, nous semble-t-il, chantait. Cela cesserait peut-être d'être vrai du jour où... Mais c'est précisément là ce qui dirige nos regards vers l'URSS avec une interrogation si anxieuse. Le triomphe de la Révolution permettra-t-elle à ces artistes d'être portés par le courant? Car la question se pose... Qu'adviendra-t-il si l'État social transformé enlève à l'artiste tout motif de protestation? Que fera l'artiste s'il n'a plus à se lever contre, plus qu'à se laisser porter? Sans doute, tant qu'il y a lutte encore et que la victoire n'est pas parfaitement assurée, il pourra peindre cette lutte, et, combattant lui-même, aider au triomphe. Mais ensuite... Voilà ce que je me demandais avant d'aller en URSS. Vous comprenez, m'expliqua X, ce n'était plus du tout cela que le public réclamait, plus du tout cela que nous voulons aujourd'hui. Il avait donné précédemment un ballet très remarquable et très remarqué. Il, c'était Shostakovitch, dont certains me parlaient avec cette sorte d'éloge que l'on accorde au génie. Mais que voulez-vous que le peuple fasse d'un opéra dont, en sortant, il ne peut redonner aucun air? Quoi? C'est donc là qu'ils en étaient. Et pourtant X, artiste lui-même et fort cultivé, ne m'avait tenu jusqu'alors que des propos intelligents. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des œuvres que tout le monde puisse comprendre et tout de suite. Si Shostakovitch ne le sent pas de lui-même, on lui fera bien sentir en ne l'écoutant même plus. Je protestais que les œuvres parfois les plus belles, et même celles qui sont appelées à devenir les plus populaires, ont pu n'être goûtées d'abord que par un très petit nombre de gens, que Beethoven lui-même, et lui tendant un livre que précisément j'avais sur moi, « Tenez, lisez ceci. Moi aussi, il y a plusieurs années, c'est Beethoven qui parle, j'ai donné un concert à Berlin. Je m'y suis livré tout entier, et je pensais être arrivé vraiment à quelque chose. J'escomptais donc un réel succès. Mais, voyez, lorsque j'avais réalisé le meilleur de mon inspiration, pas le plus léger signe d'approbation. » X m'accorda qu'en URSS, un Beethoven aurait eu bien du mal à se relever d'un tel insuccès. « Voyez-vous, continua-t-il, un artiste chez nous a d'abord à être dans la ligne. Les plus beaux dons, sinon, seront considérés comme du formalisme. Oui, c'est le mot que nous avons trouvé pour désigner tout ce que nous ne nous soucions pas de voir ou d'entendre. Nous voulons créer un art nouveau, digne du grand peuple que nous sommes. L'art aujourd'hui doit être populaire ou n'être pas. » Vous contraindrez tous vos artistes au conformisme, lui dis-je. Et les meilleurs, ceux qui ne consentiront pas à avilir leur art ou seulement à le courber, vous les réduirez au silence. La culture que vous prétendez servir, illustrer, défendre, vous honnira. Alors il protesta que je raisonnais en bourgeois, que pour sa part il était bien convaincu que le marxisme, qui, dans d'autres domaines, avait déjà produit de si grandes choses, saurait aussi produire des œuvres d'art. Il ajouta que ce qui retenait ces nouvelles œuvres de surgir, c'est l'importance qu'on accordait encore aux œuvres d'un passé révolu. Il parlait à voix de plus en plus haute, il semblait faire un cours ou réciter une leçon. Ceci se passait dans le hall de l'hôtel de Sochi. Je le quittais sans plus lui répondre, mais quelques instants plus tard, il vint me retrouver dans ma chambre et, à voix basse cette fois, « Oh, parbleu, je sais bien, mais on nous écoutait tout à l'heure et mon exposition doit ouvrir bientôt. » X est peintre et devait présenter au public ses dernières toiles. Quand nous arrivâmes en URSS, l'opinion était mal réfugiée de la grande querelle du formalisme. Je cherchais à comprendre ce que l'on entendait par ce mot, et voici ce qu'il me sembla. Tombait sous l'accusation de formalisme tout artiste coupable d'accorder moins d'intérêt au fond qu'à la forme. Ajoutons aussi que n'est jugé digne d'intérêt, ou plus exactement n'est toléré, le fond, que lorsqu'incliné dans un certain sens. L'œuvre d'art sera jugée formaliste dès que pas inclinée du tout, et n'ayant par conséquent plus de sens, et je joue ici sur le mot. Je ne puis, je l'avoue, écrire ces mots « forme » et « fond » sans sourire, mais il sied plutôt de pleurer lorsqu'on voit que cette absurde distinction va déterminer la critique. Que cela fût politiquement utile, il se peut, mais ne parlez plus ici de culture. Celle-ci se trouve en péril dès que la critique n'est plus librement exercée. En URSS, pour belle que puisse être une œuvre, si elle n'est pas dans la ligne, elle est honnie. La beauté est considérée comme une valeur bourgeoise. Pour génial que puisse être un artiste, s'il ne travaille pas dans la ligne, l'attention se détourne et détournée de lui. Ce que l'on demande à l'artiste, à l'écrivain, c'est d'être conforme et tout le reste lui sera donné par-dessus. J'ai pu voir à Tiflis une exposition de peinture moderne dont il serait peut-être charitable de ne point parler. Mais après tout, ces artistes avaient atteint leur but, qui est d'édifier, ici par l'image, de convaincre, de rallier des épisodes de la vie de Staline servant de thème à ses illustrations. Ah, certes, ceux-là n'étaient pas des formalistes. Le malheur, c'est qu'ils n'étaient pas des peintres non plus. Ils me faisaient souvenir qu'Apollon, pour servir Admet, avait dû éteindre tous ses rayons et du coup n'avait plus rien fait qui vaille, ou du moins qui nous importât. Mais comme l'URSS, non plus avant qu'après la Révolution, n'a jamais excellé dans les arts plastiques, mieux vaut s'en tenir à la littérature. Dans le temps de ma jeunesse, me disait X, l'on nous recommandait tel livre, l'on nous déconseillait tels autres, et naturellement c'est vers ces derniers que notre attention se portait. La grande différence, aujourd'hui, c'est que les jeunes gens ne lisent plus que ce qu'on leur recommande de lire, qu'ils ne désirent même plus lire autre chose. C'est ainsi que Dostoïevski, par exemple, ne trouve guère plus de lecteurs, sans qu'on puisse exactement dire si la jeunesse se détourne de lui, ou si l'on a détourné de lui la jeunesse, tant les cerveaux sont façonnés. S'il doit répondre à un mot d'ordre, l'esprit peut bien sentir du moins qu'il n'est pas libre. Mais s'il est ainsi préformé qu'il n'attende même plus le mot d'ordre pour y répondre, l'esprit perd jusqu'à la conscience de son asservissement. Je crois que l'on étonnerait beaucoup de jeunes soviétiques et qu'ils protesteraient si l'on venait leur dire qu'ils ne pensent pas librement. Et comme il advient toujours que nous ne reconnaissons qu'après les avoir perdus la valeur de certains avantages, rien de tel qu'un séjour en URSS, ou en Allemagne, il va sans dire, pour nous aider à apprécier l'inappréciable liberté de pensée dont nous jouissons encore en France et dont nous abusons parfois. À Leningrad, l'on m'avait demandé de préparer un petit discours à l'usage d'une assemblée de littérateurs et d'étudiants. Je n'étais en URSS que depuis 8 jours et cherchais à apprendre le la. Je soumis donc à X et à Y mon texte. L'on me fit aussitôt comprendre que ce texte n'était ni dans la ligne, ni dans la note, et que ce que je m'apprêtais à dire paraîtrait fort malséant. Et parbleu, je m'en rendis nettement compte moi-même par la suite. Du reste, ce discours, je n'eus pas l'occasion de le prononcer. Le voici. L'on m'a souvent demandé mon opinion sur la littérature actuelle de l'URSS. Je voudrais expliquer pourquoi j'ai refusé de me prononcer. Cela me permettra du même coup de préciser certains points du discours que j'ai lu sur la place Rouge, au jour solennel des funérailles de Gorki. J'y parlais de nouveaux problèmes soulevés par le triomphe même des républiques soviétiques, problèmes dont je disais que ce ne serait pas une des moindres gloires de l'URSS de les avoir fait naître à l'histoire et proposer à notre méditation. Comme l'avenir de la culture me semble étroitement lié à la solution qui pourra leur être donnée, il ne me paraît pas inutile d'y revenir et d'apporter ici quelques précisions. Le grand nombre, et même composé des éléments les meilleurs, n'applaudit jamais à ce qu'il y a de neuf, de virtuel, de déconcerté et de déconcertant dans une œuvre, mais seulement à ce qu'il peut déjà y reconnaître, c'est-à-dire la banalité. Tout comme il y avait des banalités bourgeoises, il y a des banalités révolutionnaires. Il importe de s'en convaincre. Il importe de se persuader que ce qu'elle apporte de conforme à une doctrine, fût-elle la plus saine et la mieux établie, n'est jamais ce qui fait la valeur profonde d'une œuvre d'art, ni ce qui lui permettra de durer, mais bien ce qu'elle apportera d'interrogations nouvelles, prévenant celles de l'avenir, et de réponses à des questions non encore posées. Je crains fort que quantité d'œuvres, toutes imprégnées d'un pur esprit marxiste, à quoi elles doivent leur succès d'aujourd'hui, ne dégagent bientôt, au nez de ceux qui viendront, une insupportable odeur de clinique. Et je crois que les œuvres les plus valeureuses seront celles seules qui auront su se délivrer de ces préoccupations-là. Du moment que la révolution triomphe et s'instaure et s'établit, l'art court un terrible danger, un danger presque aussi grand que celui que lui font courir les pires oppressions des fascismes, celui d'une orthodoxie. L'art qui se soumet à une orthodoxie, fût-elle celle de la plus saine des doctrines, est perdu. Il sombre dans le conformisme. Ce que la révolution triomphante peut et doit offrir à l'artiste, c'est avant tout la liberté. Sans elle, l'art perd signification et valeur. Walt Whitman, à l'occasion de la mort du président Lincoln, écrivit un de ses plus beaux chants. Mais si ce libre chant eût été contraint, si Whitman avait été forcé de l'écrire par ordre et conformément à un canon admis, ce traîne aurait perdu sa vertu, sa beauté, ou plutôt Whitman n'aurait pas pu l'écrire. Et comme, tout naturellement, l'assentiment du plus grand nombre, les applaudissements, le succès, les faveurs, vont à ce que le public peut aussitôt reconnaître et approuver, c'est-à-dire au conformisme, je me demande avec inquiétude si peut-être dans l'URSS glorieuse d'aujourd'hui, ne verrait-on pas, ignoré de la foule, quelques Baudelaire, quelques Keats ou quelques Rimbaud, qui en raison même de sa valeur, a du mal à se faire entendre. Et c'est pourtant celui-là entre tous qui m'importe, car ce sont les dédaignés de d'abord, les Rimbaud, les Keats, les Baudelaire, les Stendhal même, qui paraîtront demain les plus grands. Chapitre 6. Sébastopol, dernière étape de notre voyage. Sans doute, il est en URSS des villes plus intéressantes ou plus belles, mais nulle part encore je n'avais aussi bien senti combien je resterais épris. Je retrouvais à Sébastopol, moins préservée, moins choisie qu'à Soukou ou Sotchi, la société, la vie russe entière, avec ses manques, ses défauts, ses souffrances, hélas, à côté de ses triomphes, de ses réussites qui permettent ou promettent à l'homme plus de bonheur. Et suivant les jours, la lumière adoucissait l'ombre, ou au contraire l'épaississait. Mais, autant que le plus lumineux, ce que je pouvais voir ici de plus sombre, tout m'attachait, et douloureusement parfois, à cette terre, à ces peuples unis, à ce climat nouveau qui favorisait l'avenir et où l'inespéré pouvait éclore. C'est tout cela que je devais quitter. Et déjà commençait à m'étreindre une angoisse encore inconnue. De retour à Paris, que saurais-je dire? Comment répondre aux questions que je pressentais? On attendait de moi certainement des jugements tout d'une pièce. Comment expliquer que, tour à tour en URSS, j'avais eu moralement si chaud et si froid? En déclarant à nouveau mon amour, allais-je devoir cacher mes réserves et mentir en approuvant tout? Non, je sens trop qu'en agissant ainsi, je desservirais à la fois l'URSS même et la cause qu'elle représente à nos yeux. Mais ce serait une très grave erreur d'attacher l'une à l'autre trop étroitement, de sorte que la cause puisse être tenue pour responsable de ce qu'en URSS nous déplorons. L'aide que l'URSS vient d'apporter à l'Espagne nous montre de quel heureux rétablissement elle demeure capable. L'URSS n'a pas fini de nous instruire et de nous étonner.